Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de débrief de la draft, deuxième épisode de NFC, la NFC Nord, et forcément, on était obligé d'inviter un fan absolu des Vikings, Alexandre Locke, qui est avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Victor et bonjour à tous.
Non, évidemment, une tête de fromage et pas un Viking, c'est ce que tu es. D'ailleurs, tu as mis un t-shirt assorti, je vois que...
Ouais, je suis de jaune vêtu.
Tu es de jaune vêtu pour ce podcast très spécial. Ce n'est pas par Green Bay que nous avons commencé, c'est bien par Chicago, autre franchise historique. Chicago, déjà, on peut dire, déjà, comment dirais-je, 9e choix d'adraft, devenu 10e. Ils ont pris Darnell Wright, le tackle de Tennessee, sûrement pour jouer tackle droit. Ça, c'est une question qu'il y aura. Mais en tout cas, les Bears qui avaient accumulé beaucoup de picks, forcément avec les échanges, et notamment l'échange du premier choix. Ils ont commencé avec Darnell Wright. Ensuite, au deuxième tour, ils ont pris defensive tackle de Florida, Jervon Dexter, le cornerback de Miami, Tyreek Stevenson. Au troisième tour, le defensive tackle de South Carolina, Zach Pickens. Au quatrième tour, le running back de Texas, Roshon Johnson, le receveur de Cincinnati, Tyler Scott. Au cinquième tour, le linebacker d'Oregon, Noah Sewell, frère 2. Le cornerback Terrence Smith de Minnesota, et au septième tour, le defensive tackle Travis Bell de Kennesaw State et le safety Kendall Williamson de Stanford. Alors Alexandre, je me doute que tu as envie de passer un quart d'heure sur Travis Bell, le defensive tackle de Kennesaw State, hein, dont on a regardé tous les matchs avec attention.
Absolument tous.
Mais peut-être qu'on va se concentrer sur le début de la draft. Quel est le choix qui t'a plu entre Wright, Dexter, Stevenson, Pickens, peut-être un autre?
Alors, sur ces deux premiers jours, pour moi, le choix qui correspond, et qui est vraiment peut-être à noter, à saluer, c'est Jervon Dexter, parce que c'était vraiment un besoin, le poste de defensive tackle, et que c'est un joueur à fort potentiel, alors qu'il y aura peut-être besoin d'un petit peu de temps, c'est certain, mais ça, c'est un titulaire immédiat, et ça, je pense qu'il n'y a pas de débat quand on voit l'effectif des Bears. Darnell Wright, j'aime bien. Maintenant, je m'interroge. Moi, ça ne me choque pas tellement qu'il ait été pris en 10. Ce qui me choque, c'est plus qu'il ait été pris par Chicago. Tu l'as dit, c'est plutôt un tackle droit. Or, les Bears ont plutôt besoin d'un tackle gauche, parce que Tavon Jenkins, qu'ils avaient déjà sélectionné il y a 2 ans maintenant, c'était un tackle droit aussi, supposé. Donc, voilà, c'est un peu curieux. Après, je trouve que ça part un peu dans tous les sens à partir du troisième jour, mais bon, ça, peut-être qu'on peut leur excuser. Bon, moi, j'aime bien Noah Sewell, mais certainement affect particulier, parce que c'est un joueur d'Oregon et que je l'ai regardé plus souvent que les autres, et depuis son arrivée, sa sortie du lycée. Mais voilà, c'est... J'ai pas une ligne directrice qui m'emballe.
Eh ben écoute, moi je suis très emballé. Donc comme quoi, non mais comme quoi, il faut parfois, c'est ça qui est intéressant, de confronter les points de vue. Darnell Wright, moi j'adore. Et je pense que le choix de Wright veut aussi dire qu'il croit à Braxton Jones en left tackle et que Tevin Jenkins sera un garde sur le long terme. Mais Darnell Wright, pour moi, oui, il ne peut jouer qu'à droite, mais par contre, j'adore ce joueur. Je pense vraiment qu'il y a un potentiel à Lane Johnson, le mec qui va rester à droite pendant 12 ans, mais il sera le meilleur à son poste. Tyreek Stevenson, je pense qu'en 56e choix, le cornerback, c'est un style. Roshan Johnson, le running back, pour moi, il était dans l'ombre de Bijan, mais c'est un super running back, vraiment. Tyler Scott, c'est une sorte de menace profonde, joueur très électrisant, que j'aime beaucoup, que j'avais au troisième tour personnellement. Terrell Smith, ce cornerback de Minnesota, j'avais au quatrième tour, il part au cinquième. Enfin, moi, j'ai trouvé que, un peu à l'image des Colts, ils se sont dit, OK, on a 1 million de besoins, quoi qu'il arrive, donc on va juste prendre le meilleur joueur sur notre board. Peut-être pas pour Darnell Wright. Là, il y avait peut-être un message pour Fields, t'inquiète pas, on te protège, etc. Mais pour le reste, moi, j'ai surtout l'impression qu'ils ont pris des bons joueurs et qu'ils se sont dit, bah, on va espérer que la majorité marche et ça nous donnera un peu de profondeur sur certains postes, même s'il y a des postes qui vont rester non adressés, entre guillemets. De toute façon, ils ne comptent pas jouer le Super Bowl l'année prochaine. Et j'ai, contrairement à toi, tu vois, j'ai beaucoup aimé cette draft.
Non, mais je peux l'entendre. Encore une fois, Wright, j'aime bien.
Donc, on a deux visions qui s'opposent.
Après, c'est pas... Il y a d'autres équipes dans cette division qui m'ont un petit peu aussi interrogé. Je suis moins emballé que toi sur Stevenson, mais pourquoi pas à cette hauteur-là, c'est pas déconnant, ça va être un joueur qui peut rapidement être titulaire. Voilà, c'est non mais ça reste correct, mais il y a rien qui me fait rêver. C'est vrai que je les avais tellement vus partir sur Bijan Robinson et ça je trouvais ça hyper excitant. Bon, ils ont pas eu l'opportunité, hein, mais que du coup peut-être que je suis biaisé et que ça me laisse sur ma faim.
Eh, peut-être en effet, ils ont été court-circuités par les faucons. Du coup, niveau notes. On est je rappelle, hein, dans le début d'épisode, donc je rappelle, il y a 6 notes possibles. Félicitations, compliments, encouragement, passable, mauvais et blâme. Je comprends que toi, tu es un peu au milieu, c'est ça?
Ouais, je suis à la limite, ouais, je suis plutôt vers des petits encouragements parce que y a quand même pas mal de besoins qui sont comblés.
Eh ben, tu vois, moi, on va assumer notre différence. Je suis sur des gros compliments. Voilà. Donc comme quoi, hein, c'est aussi intéressant de... Et je pense que, tu vois, là, on a un vrai débat sur Chicago. Il est possible qu'on ait un vrai débat sur notre prochaine équipe également.
C'est très possible.
Parce qu'on va parler des Detroit Lions. Donc, qui ont choisi au premier tour Jahmyr Gibbs, running back d'Alabama, au 12e choix. Jack Campbell, le linebacker d'Iowa, au 18e choix. Sam Laporta, le tight end d'Iowa, au 34e choix. Brian Branch, le defensive back d'Alabama, toujours au 2e tour. Hendon Hooker, le quarterback au 3e tour. Broderick Martin, le defensive tackle de Western Kentucky, au 3e tour également. Colby Sorsdahl, le garde de William & Mary. Pareil, hein, évidemment, William & Mary, j'ai regardé tous les matchs pour pouvoir vous parler de Colby Sorsdahl. Et au 7e tour, le running back, receveur de North Carolina, Antoine Green. Forcément, on est obligé de parler de ce premier tour. Parce que c'est les deux choix, en tout cas deux des 3-4 choix, qu'on fait discuter un peu toute la planète football. Là, je ne vais pas partir sur choix favori, choix machin. On est obligé de commencer par Jahmyr Gibbs et Jack Campbell. Est-ce que le premier tour des Lions est réussi?
Alors, je vais te confier je vais confier aux auditeurs un petit secret des coulisses de la nuit de la draft. C'est que j'ai eu une petite panne de réveil au début du premier tour et que je me suis réveillé typiquement, enfin pile poil pour la sélection de Gibbs. Et je me suis dit, oh là là, il est vraiment très très tard pour que Jahmyr Gibbs soit sélectionné. Et je me suis rendu compte après, donc quelques secondes après, qu'on était qu'au 12e choix. Donc voilà, l'impression c'est que Jahmyr Gibbs, tout bon joueur, tout running back double menace qu'il est, c'est un coureur qui est pris en 12e choix. Voilà. Et pour moi déjà ça, c'est, et c'est pas le premier coureur de la classe. Donc pour moi, ça me pose un vrai souci. Ça me pose d'autant plus un souci que ce n'était pas un besoin, le poste de coureur. Alors, il va être coureur numéro 1, puisqu'ils ont envoyé D'Andre Swift aux Eagles, mais ils avaient signé Montgomery de Chicago pendant l'intersaison, et donc ils avaient Swift. Pourquoi partir sur un coureur au premier tour? Je ne comprends pas du tout la logique. Jack Campbell en linebacker, alors je sais que toi, tu l'adores. Le poste est un vrai besoin. Pourquoi pas ? 18e choix, c'est un petit peu, je trouve aussi, très élevé. En fait, ça ressemble à un premier tour des années 90. Quoi. Coureur, linebacker.
Ah oui ! Ça, c'est sûr que c'est un tour des années 90, début des années 2000, où les joueurs les plus connus des équipes, c'était le running back d'un côté et le middle linebacker de l'autre. Un Brian Urlacher, par exemple, au Chicago Bears. Écoute, moi, autant de choix de Gibbs, je suis d'accord qu'il n'y a aucune valeur de position, pas forcément de valeur du joueur. Il y a une complémentarité avec Montgomery, certes, et du coup, bah, le départ de Swift fait sens, mais pour moi, il y avait beaucoup plus urgent à adresser. C'est-à-dire que tu pouvais prendre un cornerback, même si ils ont renforcé les defensive backs hein, à la free agency. Tu pouvais prendre de la ligne, défensive notamment. Partir sur Jahmyr Gibbs en 12, oui, ça me dérange. Surtout qu'à mon avis, il aurait été là en 18, mais ça me dérange un peu. Jack Campbell, moi je vais dire, hein, sur mon board personnel, il était 17. Et il part en 18. Je suis d'accord que si tu prends en compte la valeur de la position, du coup, c'est surpayé, parce que quand bien même tu serais 17e en termes de talent, le poste de linebacker est quand même un peu dévalué. Là où, là où ça me choque moins, c'est que pour moi, c'était le besoin numéro 1 de cette équipe. Et tu vois, bon, peut-être que tu as surpayé, peut-être c'est un peu trop haut, mais tu remplis quand même ton besoin numéro 1. Et du coup, ça rend la pilule, entre guillemets, plus facile à avaler qu'un Jahmyr Gibbs où ça répond même pas à un besoin. Et là encore, on va faire un peu chronologiquement pour Détroit, mais parce que là, on est un peu obligé de faire ça. C'est-à-dire que on parlait de besoin d'un linebacker. Il y avait un besoin énorme de defensive tackle aussi. Et finalement, ils décident de prendre un tight end au deuxième tour. Tout le monde s'attend à ce que ce soit Michael Mayer hein, qui est tombé. Ils décident de prendre Sam Laporta au-dessus de Michael Mayer. Et ensuite, de prendre Brian Branch. Donc finalement, encore au troisième pic, ils décident d'être plus intelligents que les autres pour finalement faire un quatrième pic où là, on a l'impression qu'ils ont pris le meilleur joueur disponible. On est un peu perdu à ce moment-là sur la stratégie de Détroit, hein. On peut dire.
Clairement, Sam Laporta, c'est peut-être le choix le plus surprenant par rapport au fait qu'il y avait effectivement Michael Mayer qui était disponible et qui était vu comme un top 20, un top 25. Maintenant, pourquoi pas ? C'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il va être, il devrait être bon, mais c'est vraiment, c'est osé. C'est vraiment osé. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Gibbs qui aurait été disponible en 18. Moi, je pense même qu'il aurait été disponible en 34. Après, ça c'est un autre débat. Mais ce qu'il faut pas oublier pour Branch, c'est qu'ils ont monté un échange parce que ils étaient en 48. Ils ont échangé avec le rival, les Packers. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Je trouve que tout est surpayé. Et il y a quelque chose pour moi qui est important dans une draft, c'est trouver le bon moment en fait pour choisir le joueur que tu as sur ton board. Alors bien sûr, tout le monde a son board avec des valeurs disant ce joueur, je le veux à tout prix, etc. Mais savoir dire, je suis patient parce que ce joueur, je vais le retrouver plus tard, c'est aussi ça bien drafté. Et typiquement, on a parlé hier des Eagles, Nolan Smith, ils ont patienté, ils ont eu Nolan Smith. Parce que c'est pas que de la chance. Et là, je pense que Laporta, comme Campbell, comme Gibbs, c'est trop tôt. ils n'ont pas été assez patients. Ils ont un petit peu dévalué leur choix.
Écoute, je suis assez d'accord avec ça. Laporta, en fait, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'était mon tight end numéro 3 et je l'avais en fin de deuxième tour. Donc finalement, dit comme ça, bon, on peut penser, ok, bah, dans ce cas-là, c'est plutôt un bon choix. La réalité, en fait, de ce qui me dérange un peu pour le coup, c'est, comme on dit toujours, pour qu'il y ait un style de draft, ça veut dire qu'il y a 32 équipes qui se sont plantées. Pour qu'il y ait un reach ou un mauvais choix, il suffit d'une équipe qui se plante. Et là, vraiment, enfin, prendre la Porta au-dessus de Mayer, c'est encore une fois vraiment le côté je suis plus intelligent que les autres. Parce que autant Kincaid et Mayer, il y avait débat, tu vois. Moi, je peux totalement comprendre qu'on préfère Kincaid. Là, il y a un moment et que le Mayer, c'est une dimension au-dessus de Sam Laporta, quoi. Donc, c'est vraiment incompréhensible. Après, Brian Branch, c'est super, mais du coup, ça arrive après un choix controversé. Donc, c'est vraiment, on souffle un peu le froid et le chaud. Et finalement, ils adressent ce poste de defensive tackle qu'au troisième tour. Et en plus, Broderick Martin, quoi.
Alors que, parce que moi, j'avais un de mes chouchous qui était disponible, qui a été pris deux pics plus tard, c'est Siaki Ika de Baylor qui était disponible.
Bien sûr.
Il passe sur Siaki Ika pour prendre Broderick Martin. Alors tant mieux, parce que j'avais pas spécialement envie de voir Ika chez un rival des Packers. Mais c'est, pour moi, c'est incompréhensible.
Surtout qu'à l'intérieur, c'est quoi? C'est McNeil et Onuozurike. Donc ça leur aurait fait du bien, un peu de... Je dis pas, il y a de la viande quand même, mais un vrai nose tackle, ouais. Ça aurait été intéressant, quoi. Donc je suis d'accord avec toi, un Siaki Ika aurait fait beaucoup plus de sens, même si certains auraient peut-être trouvé. Il est pris derrière Broderick Martin, c'est ça que
tu disais ? Deux pics, je crois. 98, il me semble, par les Browns.
Tu vois, c'est fou, quoi. Non, vraiment, il y a beaucoup de décisions incompréhensibles. Hendon Hooker au troisième tour, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, il a 25 ans, tu vas te faire attendre un ou deux ans derrière Goff. Le mec, il va jouer son premier match à 27 ans, bon.
Ouais, et puis bon, si Goff, il a trouvé son système à Détroit et qu'il joue maintenant tous les ans comme il a joué l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'il s'en débarrasse. Hein.
Non, c'est clair. Donc bon, voilà, encore une fois, c'est assez étonnant, cette draft. Alors évidemment, j'ai envie de mettre des félicitations parce qu'il y a Jack Campbell, évidemment. Dès que j'ai le numéro, je commande le maillot. Hein. Je pense que si vous avez entendu les podcasts d'avant-draft, vous ne serez pas étonné. Mais si on reste sérieux, on est sur quoi? Du coup, forcément, on est sur plutôt du négatif, mais est-ce que tu irais jusqu'à mauvais? Est-ce que tu irais jusqu'à blâme?
Non.
T'es à peu près où?
Moi, je suis sur passable parce que y a quand même des joueurs qui vont être titulaires, et c'est aussi ça le but de la draft, et qu'ils ont pris Brian Branch en 45. Alors, on ne sait pas comment ils ont négocié avec Green Bay, mais il se trouve qu'ils ont pris Brian Branch directement dans les mains des Packers en 45. Voilà, après, Laporta va être titulaire tout de suite, va être même tight end numéro 1, je pense. Jack Campbell, bah, tu nous l'as bien présenté. Donc, on va rester surpassable. Mais c'est, on a l'impression qu'ils ont un tour d'avance à chaque fois. C'est ça qui m'embête.
Ouais, je suis assez d'accord. Il y a quand même des joueurs de talent, c'est-à-dire que Gibbs, Campbell, Laporta, Branch, bon, voilà, c'est des bons joueurs de foot, quoi. Et Gibbs, même s'il répond pas à un besoin, bah, il y a un monde où il devient Alvin Kamara pendant quelques saisons, et forcément, ça va aider. Donc moi, je suis sur le passable aussi. C'est-à-dire que j'attends de voir, je suis pas allé jusqu'à mauvais. C'est peut-être un peu rétroactivement sévère d'avoir mis mauvais à Dallas sans mettre mauvais à Détroit, mais pour l'instant, on va dire que Détroit, ils ont surtout besoin de talent. Et on va espérer qu'ils en aient trouvé. Tam-tadam, c'est le moment. Nous allons parler des Green Bay Packers. Donc, les Green Bay Packers, premier tour. L'Edge d'Iowa, Lucas Van Ness, avec le numéro 13. Au deuxième tour, Luck Musgrave, le tight end d'Oregon State. Au deuxième tour, toujours le receveur Jaden Reed de Michigan State. Troisième tour, le tight end, parce qu'on n'a jamais assez, de South Dakota State, Tucker Kraft. Quatrième tour, Cody Wooden, le defensive tackle de Auburn. Au cinquième tour, Sean Clifford, la légende Sean Clifford, quarterback de Penn State. Dontavoy Weeks, le receveur de Virginia. Au sixième tour, Carl Brooks, le defensive tackle de Bowling Green. Anders Carlson, le kicker de Auburn. Et au septième tour, Carrington Valentine, le cornerback de Kentucky. Lou Nichols, the third, le running back central de Michigan. Anthony Johnson Jr., le safety d'Iowa State. Et Grant Dubose, le receveur de Charlotte. Vas-y. On sent que t'as besoin de parler. Alors, assis-toi. Ouvre ton cœur. Tu as approximativement 2 millions d'auditeurs qui t'écoutent. Explique-nous ce que... Approximativement, hein, je n'ai pas dit que c'était exactement le chiffre. Explique-nous ce que tu as ressenti dans cette draft des Green Bay Packers.
Alors, au risque de surprendre, j'ai été moins déçu que d'habitude. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des bons choix. Il y a des choix qui fit, comme on dit, parfaitement au système. Par contre, c'est beaucoup des joueurs d'avenir, clairement. Quand tu prends avec tes deux premiers choix Luca Van Ness, qui n'a jamais démarré un match à Iowa, tu prends Luke Musgrave, qui doit avoir à tout casser, alors je vais exagérer, mais 8 matchs, parce qu'il a été blessé, parce que si, parce que ça, tu as des projets. Voilà. C'est deux joueurs projets avec des potentiels physiques assez incroyables. Mais c'est des projets. Maintenant, la logique des Packers en 2023, c'est quoi ? C'est pas de jouer le titre. Donc, tu prépares ton avenir, quelque part, cette année. Parce que tu vas évaluer Jordan Love. On a vu qu'ils ont prolongé ça en lui donnant un contrat de cinquième année avec une possibilité de sortie qui était bien inférieure à une éventuelle option. Donc, c'est cohérent de se dire Luca Van Ness, Luke Musgrave, on va les incorporer pour qu'ils soient vraiment titulaires en 2024. Après, ce qui me gêne le plus, donc on vient d'en parler, c'est d'avoir passé sur Brian Brunch alors qu'il te tombe tout cuit dans les mains en 45, tu es à l'horloge, tu as que des peintres en safety parce que c'est la réalité. Et tu as Brian Brunch qui est le meilleur de la QV, potentiellement un top 20, top 25 talent de la draft 2023, et tu passes en échangeant ton choix aux Lions qui viennent te le prendre. Donc, en fin de compte, à partir de là, le choix de Jaden Reed est mauvais, pas à cause du joueur, mais par rapport à la stratégie. Donc, c'est vraiment un gros point négatif qui fait vraiment beaucoup de mal à l'ensemble de la draft. Et alors après, bah, y a le pompon, c'est Sean Clifford, cinquième tour. Donc là, c'est comment gaspiller un pic gratuitement, en fin de compte. Parce que tu récupères un cinquième tour dans ton échange, dans ta reculade, si je peux dire, au deuxième tour avec donc Brian Branch, Jaden Reed. Et ce cinquième tour, alors même si ce n'est pas précisément ce choix-là, tu vas le mettre sur un quarterback médiocre qui a passé environ 17 ans à Penn State et, pour être du coup ton numéro 2. Donc c'est sûr que là au moins on sait que Jordan Love il n'aura pas d'ombre, il va pouvoir être titulaire sans pression, il n'y a pas de problème, mais c'est dommage de gâcher un cinquième tour, surtout qu'il y avait encore beaucoup de besoins à combler et que du coup tu les prends un peu tardivement.
Ouais, le choix Sean Clifford, bon ok, il fait rire parce que c'est vrai que c'est un choix stupide, mais au pire c'est un choix de cinquième tour, tu peux vivre avec. C'est vrai que comme tu as dit, moi je suis totalement d'accord avec toi, c'est une draft d'avenir, l'occasion naît, c'est brut de brut, et en rookie ça apportera sûrement pas beaucoup. Jaden Reed c'est un peu surprenant. Moi il y a aussi l'allocation des ressources, enfin, à quel moment tu as besoin de deux tight ends dans les trois premiers tours ?
Alors,
à moins que tu aies décidé que tu vas jouer en 12 personnels toute la saison.
Je pense que c'est une question d'opportunité. Pour Jordan Love. C'est une question d'opportunité parce que Tucker Kraft, c'est vraiment un très gros potentiel. Moi, je pense en poste de tight end, mais venant de South Dakota State et sachant que les tight ends ont en plus besoin souvent d'un temps d'adaptation, on se dit que c'est potentiellement un titulaire, un très bon titulaire d'ici 3 ans, on va dire. Et donc, c'est plus une question de valeur. Après, il ne faut pas oublier qu'on a plus personne, les Packers n'avaient plus personne en tight end, c'est-à-dire que Robert Tunyon est parti, Mercedes Lewis est parti, Josiah DeGuara est un fullback, donc en réalité, tu n'y as absolument personne. Donc, finalement, tu trouves deux joueurs qui vont effectivement se partager les snaps ou parfois être alignés ensemble.
Ouais, après, tu sais, les tight ends du Dakota du Sud, ils ne mettent pas toujours 3 ans à se développer, hein, Dallas Goedert. Ah, C'est allé très rapidement, mais...
C'est aussi à lui qu'il était comparé, donc je demande que ça, moi, avoir un Dallas Goedert aux Packers. Ça serait plus que intéressant.
Mais c'est vrai que Luke Musgrave, c'est plus un tight end receveur, là où Kraft, il est, on va dire, un peu plus classique, quoi, un peu plus tight end Y, comme on les imagine. Non, après, moi, c'est vrai que, bon, sur les choix du 6e, 7e tour, tu peux pas vraiment critiquer ou quoi, parce qu'encore une fois, faut prendre des risques et voir. Le choix de Nichols fait rire, parce que, clairement, il a été nuissime à Central Michigan, et je pense que personne n'a vraiment compris ce qu'il fait là. Mais encore une fois, tu vois, il y a des choix qui me séduisent. Cody Wooden au 4e tour,
j'adore, ouais.
Ou Dontayvion Weeks au 5e, ouais, c'est des bons choix. Je trouve que, encore une fois, c'est un peu... Il y a à boire et à manger. Mais disons que ils ont voulu injecter du talent. Peut-être pas forcément là où on les attendait. Mais moi, tu vois, c'est une draft que j'ai envie d'encourager. Même si, en effet, bah, ils ont décidé de renoncer à Branch. Mais au moins, c'est un choix qu'ils ont fait. On va dire... C'est eux qui l'ont décidé. Il y a quand même beaucoup de bons joueurs et t'assumes d'être en reconstruction. Donc moi, je suis sur les encouragements.
Eh bien oui, moi aussi, absolument. Parce que Luca Van Ness, je crois au projet, que ce soit en tant que edge ou en tant que même defensive end 34, ce qui, je pense, sera peut-être son poste cette année, parce que c'est un vrai besoin. Donc voilà, Musgrave, c'est une sorte de Robert Tonyan amélioré. Tu l'as dit, hein, le profil de tight end receveur. Jaden Reed, c'est un profil qu'il n'y a pas dans l'équipe et qui est complémentaire ce qui était présent avec Dobbs et Watson. Donc il y a des bonnes choses. Voilà. Mais je ne peux pas aller au-delà d'encouragement par rapport à cette manœuvre suspecte au deuxième tour et la sélection de Sean Clifford.
Eh bien, écoute, encouragement du coup pour Green Bay. Et on va finir avec les Vikings du Minnesota. Il y avait beaucoup moins de choix que leur comparse de la division. Au premier tour, ils ont pris Jordan Addison. Au troisième tour, Mekhi Blackmon. Au quatrième tour, le defensive back d'LSU, Jay Ward. Au cinquième tour, le defensive tackle de LSU, toujours Jacqueline Roy. Jaren Hall, le quarterback de BYU. Et au septième tour, Dwayne McBride, le running back de UAB. Alors, tu m'as dit en regardant la draft de Washington, je souffle. Moi, en regardant la draft de Minnesota, je souffle.
Ah oui.
Je te le dis tout de suite. Est-ce qu'on peut quand même commencer par le positif et dire que Jordan Addison, ça rend cette attaque aérienne toujours plus sexy et c'est clairement un upgrade par rapport au Adam Thielen de 2022. Je ne parle pas du pic d'Adam Thielen, mais par rapport à ce qu'il est devenu ou à KJ Osborne, c'est vraiment le receveur numéro 2 pour compléter Jefferson.
Bah, clairement, je te dis même que ça peut être un receveur numéro 1, mais bon, Justin Jefferson est dans une telle dimension qu'il n'y a pas de débat. Mais Jordan Addison, c'est un receveur que j'aime énormément. Excellent route runner. Il va apporter vraiment quelque chose dans cette attaque. Je pense que ça fera du bien aussi à Kirk Cousins, qui joue un peu son avenir hein, cette année, puisqu'il sera en dernière année de contrat. Clairement, ça fait une attaque aérienne, quand on n'oublie pas qu'il y a aussi TJ Hockenson hein, qu'ils ont récupéré en cours de saison dernière, ça fait une attaque aérienne qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très séduisante. Après, j'entends ce que tu dis sur leur draft. Moi, j'aime bien Dwayne McBride aussi. Alors évidemment, c'est un cinquième tour.
Je suis d'accord.
Mais...
D'accord, c'est les deux choix que j'aime.
Alors certes, il a des problèmes de fumble, parce qu'il en a commis pas mal à UAB, et c'est peut-être pour ça qu'il est pris loin. Mais par contre, voilà la production quand même qu'il a sortie. Et clairement, avec un Dalvin Cook qui a l'air d'être un petit peu sur un siège éjectable, lui, il a une vraie, vraie belle carte à jouer dès cette année. Donc voilà, après, bon, je te laisse disséquer le reste de leur draft, mais...
Bah écoute, moi déjà, ça commence avec Blackmon. Hein. Moi, vous me connaissez, la Pac-12, c'est mon dada. Pour moi, vous me parlez de Mekhi Blackmon, je vois un mouchoir de pénalité. Ces joueurs, manque de discipline, manque de qualité de QI football, trop agressif. Moi, je vous le dis tout de suite, j'avais dans mon board personnel, j'avais au sixième tour. Bon, à partir du moment où il est pris au troisième, forcément, je considère que c'est un reach, entre guillemets. Après, pareil, Jay Ward, oui, c'est pas catastrophique en termes de talent, mais pour faire quoi ? Pour le faire jouer où ? J'ai l'impression que c'est un joueur qui a un peu le cul entre deux chaises. Et puis, c'est surtout un joueur d'équipe spéciale, quoi. C'est un joueur qui a envie, mais en termes de talent pur, ça me semble très limité. Jaren Hall, bah oui, hein, quitte à avoir dépensé déjà un choix sur Kellen Mond, qui était une catastrophe, autant recommencer avec Jaren Hall. Enfin, vraiment, moi, je dis, et je dis tout de suite d'ailleurs, le premier et le dernier choix font qu'ils n'ont, entre guillemets, que le mauvais.
Ah oui.
Mais oh, ah ouais, non, mais moi ça m'a tué, vraiment, ça m'a tué. Alors, je suis peut-être trop violent, hein, et je comprendrais très bien qu'on mette passable, encouragement, pourquoi pas, si c'est une personne qui aime les joueurs, même si ça commencerait déjà à me surprendre. Mais non, moi, je mets mauvais parce que un septième tour, tu peux pas valoriser un septième tour au point de changer la note. Et oui, il y a Jordan Addison, quoi, mais c'est tout. Est-ce que cette équipe est meilleure que celle de l'année dernière ? Bah non. Et franchement, c'est... Enfin, t'avais besoin d'un cornerback, et tu prends vraiment une catastrophe... Enfin, déjà que les Vikings, ça fait 10 ans qu'ils draftent des cornerbacks de merde.
C'est pas fou.
Quand ils se font pas arrêter ou quoi. Et ben là, les mecs, ils se sont dit, non, on va continuer. Pourquoi prendre un mec talentueux ? Autant prendre une buse. Non, non, moi, vraiment, c'est trop pour moi. C'est trop.
Je te rejoins, et en plus, ils ont une chance incroyable, un peu comme d'ailleurs avec la sélection de Jefferson, c'est qu'Addison, il leur tombe tout cuit dans les mains, avec les Chargers qui passent sur lui de manière assez surprenante en prenant Johnston. Donc, c'est même pas un mouvement du GM pour aller le chercher ou quoi, donc c'est un effet d'aubaine qui leur sera profitable. Mais je te rejoins, écoute, sur mauvais, ça me va. Il faut saquer un peu les Vikings.
Non, mais c'est ça. Non, mais alors, tu vois, pour le coup, que Johnson passe devant, c'est moins choquant qu'un Rigor, hein, puisqu'on parle de Justin Jefferson, mais c'est plus le profil qu'interpellé. Ça, par contre, on peut leur reconnaître qu'ils savent rester patients. Hein. Il y a Dariso qui leur était tombé dessus comme ça, pareil, hein, vers 22-23, de souvenir.
Ils avaient même fait un trade down.
Un trade down, oui, c'est ça. Je crois que c'était pour les Jets qui étaient montés pour Vera Tucker, un truc comme ça. Donc, non, pour le coup, là-dessus, ils savent faire au premier tour. C'est après que ça devient compliqué, quoi. Et voilà, je regardais là en me disant, je suis vraiment dur. Je vois qu'ils ont D sur NFL.com. Je me dis, bon, je suis pas le seul à trouver que c'était vraiment cata. Voilà, on finit sur cette note un peu négative. Désolé pour nos amis du Minnesota. Mais en tout cas, division qui va être plus intéressante que jamais l'année prochaine, plus incertaine que jamais. Merci Alexandre.
Merci à toi.
Et on va passer la main dès demain. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est Greg et Nitti qui vont nous succéder pour parler de la NFC Sud, hein, forcément, les Faucons, et de la NFC Ouest. Donc il y aura des belles choses à dire. Évidemment, pourquoi les Seahawks ont drafté comme des dieux, pourquoi les Niners sont draftés comme des buses, vous le saurez dans deux jours. Si ça se trouve, ils vont dire l'inverse. Mais en tout cas, voilà, il y a encore 8 équipes à débriefer. Merci à tous pour votre fidélité. Merci Alexandre. Et on se retrouve plus tard. On vous annoncera le programme dans quelques jours. Merci à tous.
Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch. Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.